Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci de nous rejoindre dans le Café des Sports hebdomadaire de Radio Foot International sur RFI bien entendu et avec nos invités qui sont déjà là, Rémi Ngono et Xavier Barré. Bonjour messieurs.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Joli concert. Et puis il y a aussi Gilles Verdez, ça fait longtemps que vous n'avez pas entendu Gilles. Bonjour.
Trop longtemps, bonjour Annie, bonjour à tous.
Vous nous manquiez, vous manquiez surtout à nos auditeurs, ça c'est le plus important. Et puis le réfé, il est là, fidèle au poste, Alejandro Valente, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Alors autour du comptoir aujourd'hui, nous débattrons de la fin d'une longue histoire pour le Citizen Yaya Touré. Après 8 saisons et 3 titres de champion, une coupe d'Angleterre et 3 coupes de la Ligue, le très grand international ivoirien quitte le club sacré champion d'Angleterre encore cette saison. Où Yaya Touré pourrait-il rebondir? On se posera la question. Ousmane Dembélé, buteur vedette avec le Barça cette semaine. Est-il finalement un Blaugrana déjà adapté dans le collectif ou doit-il être prêté pour revenir meilleur? En cette fin de saison, le jeune attaquant surprend à temps ou est-ce trop tard? Nous en parlerons en tout cas. Autre question, Dembélé serait-il Griezmann compatible? Du côté du Real, qui a bien sûr du mal, lui, à saisir une deuxième place pourtant à sa portée, un nouvel épisode du feuilleton Neymar et une nouvelle réponse du coach Zidane. Enfin, il reste encore des places à prendre en Ligue des Champions en Europe. Incertitude, notamment en Allemagne, où se dispute la 34e et dernière journée du championnat. Et puis en Italie, même s'il reste encore 2 journées. Radio Foot, le Café des Sports, les débats sont ouverts.
I think it was one important, you know, because after we won the trophy and the score, I think everything started.
Yeah, one of the best players in the world.
Manchester City semi-final hero, Yaya Touré, gives them the lead in the final.
Et tout a une fin. Après 316 matchs de bons et très loyaux services, Yaya Touré a donc fait ses adieux au public de l'Etihad Stadium, où des banderoles célébraient et remerciaient le milieu de terrain des belles récentes années des Citizens. À l'issue d'ailleurs du dernier match victorieux face à Brighton, Yaya Touré avait été fait titulaire et capitaine de cette équipe pour la dernière fois depuis son arrivée en juin 2010, c'est-à-dire il y a 8 ans. 8 ans de milieu de terrain, tous ses entraîneurs l'ont encensé au fur et à mesure, Roberto Mancini en son temps, Manuel Pellegrini ensuite, avec qui il avait gagné donc les 2 premiers titres de champion respectivement, et puis même Pep Guardiola, avec qui la relation a été plutôt compliquée.
Yes, it's not going to stay next season.
Yaya Touré ne restera pas avec nous la saison prochaine. Mais si le club est devenu ce qu'il est, c'est grâce à des joueurs comme lui. Il est arrivé ici à un moment charnière pour le club. Et ce que nous sommes devenus, ce que nous sommes actuellement, c'est grâce à lui. C'est lui qui nous a aidé à le faire. Nous ne pouvons pas oublier les titres de Première Ligue de Mancini et Pellegrini. Yaya était le joueur clé.
Hommage de son entraîneur actuel, de ses camarades de jeu aussi, et notamment de Vincent en compagnie, de son frère, Colo Touré, venu participer aux adieux. Il a d'ailleurs gagné un abonnement à vie, Yaya Touré, pour le stade de l'Etihad Stadium. Est-ce que c'est plus que mérité, tous ces hommages, Gilles?
Franchement, c'est beau. Cette journée est belle. Ça me fait penser un peu à la belle dernière journée d'Arsène Wenger disant adieu à Arsenal. Mais c'est beaucoup moins joli, selon moi, tout ce qui s'est passé auparavant. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même une mise à l'écart de Yaya Touré par son entraîneur.
C'est la première fois de la saison qu'il était titulaire.
Mais oui, et moi, ça m'a paru injuste. J'aime beaucoup Guardiola, mais je trouve qu'il a, non pas manqué de respect, mais je trouve qu'il ne s'est pas assez appuyé sur Yaya Touré.
Bah, je suis pas d'accord avec Gilles, parce que s'il y a bien un joueur à qui Guardiola a accordé beaucoup de respect, c'est justement Yaya Touré.
Et la
façon concrète de lui montrer le respect qu'il avait pour lui, c'est de le prolonger alors qu'il était en fin de contrat, et que tous les autres joueurs qui étaient en fin de contrat, Gaël Clichy, Bakary Sagna, Willy Caballero, Jesus Navas, etc., ont été remerciés. Disons qu'on les a pas prolongés. Et le seul Alors que Pep Guardiola, au début, avait dit « j'en prolonge aucun », le seul qui l'a prolongé, avec évidemment des conditions dans la discussion, c'est-à-dire qu'il serait un joueur supplémentaire, pas un titulaire, c'est Yaya Touré. Donc c'est une belle preuve, je trouve, de respect et de confiance faite par Guardiola à l'égard de Yaya Touré, de l'avoir prolongé l'été dernier, alors que tous les autres n'ont pas été prolongés.
Rémi ?
Je suis surpris d'entendre mon cher Xavier Barré me blesser les tympans en faisant croire que c'est un bon signe. Ça a été un mépris légendaire et je suis d'accord avec Gilles. Yaya Touré est un joueur qui, faut-il le dire, était le seul Africain qui figurait au classement du Ballon d'Or France Football. C'est-à-dire que c'était un joueur clé. Quand il arrive à Manchester City n'avait plus remporté des titres depuis 1968. C'est avec Yaya Touré que Manchester City retrouve le titre. Et je peux vous dire que c'est le seul milieu défensif au monde qui, à chaque saison, dépasse 10 buts. Et je peux vous dire que quand Guardiola arrive...
Il a dépassé, il est arrivé à 20 buts d'ailleurs.
Voilà. Quand Guardiola arrive, il trouve un monsieur qui l'a, lui a chassé, déjà, au FC Barcelone. Mm-hmm. Il dit à Yaya Touré, maintenant, tu manges beaucoup et tu es tout. Le gars se prive, il ne mange même plus. Et après, le gars revient à l'entraînement, et lui dit, tu enlèves 5 kilos, il enlève 5 kilos, il lui dit, tu enlèves encore 5 kilos, et il enlève encore 5. Le gars se retrouve maigre comme ça, lui dit, tu vas faire la gym pour avoir un peu de kilos. Le gars, finalement, a été tourné en boulique jusqu'à ce qu'il se soit mis à genoux pour demander les excuses. C'était du bébéisme à outrance. Il l'a ridiculisé. Et tout ce qu'il est en train de faire actuellement, là, vouloir jeter des fleurs à celui-là, mais ça arrive à tous les deuils. Dès que tu finis de tuer ton propre frère, tu viens faire les éloges finaux. Vraiment, mon frère va en paix, va te reposer. Pourtant, c'est toi qui l'as empoisonné. C'est Guardiola qui a empoisonné la carrière de Yaya Touré et il ne faudrait jamais l'oublier. Ce monsieur est très méchant.
La fin de carrière quand même, Gilles.
Très méchant, je partage pas. C'est pas une question, à mon avis, d'affect. Guardiola n'en a pas dans le management. Il en a sur le terrain. Mais il considérait que Yaya Touré n'était pas un joueur dans son système. Et c'est le problème, c'est que Guardiola...
C'est le problème de Guardiola.
Oui, ou de Yaya Touré. Enfin, mais oui. Voilà, il y a une inadéquation.
Quand ça rentre pas...
Exactement. Ça ne rentre pas, entre guillemets, dans une case. Mais entre guillemets, hein, parce que ce sont des cases qui, effectivement, sont pas des numéros. Quand ça ne rentre pas dans son système, c'est éjecté. Donc, Yaya Touré ne rentrait pas, hélas, dans son système.
Et pourquoi ? Bon, si Gilles, tu le dis. Après que Yaya Touré ait présenté les excuses, subitement, il entre dans son système. Donc, c'est les excuses qui rentrent dans le système. Bon,
ça, c'était la saison dernière.
Sont sérieux.
L'agent n'a pas beaucoup aidé aussi,
À une certaine période, comme nous disons aujourd'hui, parce que quand vous me parlez de rentrer dans le système, vous regardez les Fernando et Fernandinho surtout, et vous regardez, par exemple, le système de Yaya Touré, c'est-à-dire que Guardiola qui veut, par exemple, de la puissance au niveau du milieu de terrain, qui voulait quelqu'un qui fasse le box-to-box, d'ailleurs, ce qu'il a pu constater avec certaines équipes anglaises, qu'il fallait quelqu'un qui soit puissant. La preuve, c'est que quand il fait entrer Yaya Touré, premier match, Yaya Touré marque un doublé. Donc, à une certaine période, quelqu'un qui n'entre pas dans ton système, il fait le premier match, il marque un doublé. À une certaine période,
ça, c'était la saison dernière.
Tu
ça.
Devrais quand même avoir honte. Ça, honte de c'était, dire que quelqu'un
n'a. C'était la saison dernière. Non, mais personne ne conteste le fait que Yaya Touré ait une carrière extraordinaire et qu'il a fait énormément pour Manchester City. On est tous d'accord là-dessus. Le problème d'un joueur de football, c'est qu'il n'est pas éternel. Yaya Touré comme les autres. Et il y a un moment où quand on voit l'exigence de conditions athlétiques pour le jeu de Manchester City, Yaya, il avait du mal à suivre. Cette saison, je sais pas si Rémy Ngono a vu des matchs de Manchester City cette saison, parce qu'il nous parle de Yaya Touré il y a 3-4 ans. Effectivement, on était tous d'accord sur ses qualités irremplaçables. Cette saison, moi, j'ai vu quelques matchs où justement Pep Guardiola l'avait mis comme dépositaire du jeu sur des matchs souvent où il y avait moins d'enjeux. Eh bien, on voyait qu'il avait quand même du mal, parce qu'effectivement, il est plus de prime jeunesse, et malgré son talent, malgré son expérience, il avait plus, je pense, les qualités aujourd'hui indispensables au niveau d'exigence fixé par Guardiola. Mais je suis sûr que Yaya Touré, puisqu'il veut continuer à jouer, il peut encore être super bon, par exemple, exemple en MLS aux États-Unis ou en Chine ou ailleurs, parce que c'est un joueur qui a une expérience irremplaçable. Mais je pense que dans le jeu de Pep Guardiola, effectivement, il n'a plus tout à fait sa place.
Alejandro. Parce que je trouve que effectivement, Rémi a tort de vouloir placer le débat sur le terrain de l'affect, car comme le dit Gilles, ce n'est pas le terrain de Guardiola. Guardiola cherche une certaine forme d'efficacité. Vous vous rappelez, Guardiola, il jouait aussi milieu défensif. Et il a une idée de ses postes qui est très propre à lui et qu'il veut essayer de reproduire. Aujourd'hui, par exemple, avec Busquets, il a trouvé quelqu'un qui correspond à sa façon de voir ce poste-là. Yaya Touré ne correspondait pas, n'entrait pas dans la logique de jeu que voulait avoir Guardiola. Mais à aucun moment, il ne lui a manqué vraiment le respect. Et je pense que justement, l'avoir prolongé et avoir tenu le discours qu'il a tenu, c'était lui montrer du respect. Car à aucun moment, il n'a essayé de le traiter comme un enfant à qui on promet quelque chose qu'on va pas lui donner. Il a toujours été très clair avec lui, et je pense qu'il y a fini par apprécier cette franchise de Guardiola.
Je ne peux pas être d'accord avec des gens qui me disent qu'il ne l'a pas rabaissé pour qu'il aille présenter des excuses, alors que Yaya Touré n'a jamais rien fait.
Mais vous savez que ça n'avait rien à voir, Rémi, c'était surtout
Il n'a jamais rien fait, parce que l'agent avait constaté, tout le monde le savait, ce qui était en train de se passer. Donc, quand vous me dites que c'était pas... D'ailleurs, Xavier est en train de me dire qu'il peut maintenant aller jouer à la MLS. Il a quel âge?
34 ans.
Alors, les Robinson en train de jouer là. Ribéry, on a vu comment il a créé tous les problèmes à tout le monde là.
Mais c'est lui.
Il peut. C'est pas une obligation.
Mais il ira peut-être ailleurs, Rémi. Mais on sait que c'est une des
possibilités.
C'est une des possibilités.
Je reviens sur ce que je disais. Elle réfait à propos du poste. Pour Guardiola, ce poste-là, c'est plus une plaque tournante, un stratège, un visionnaire, effectivement, à la Busquets. Ce que disait Rémi sur box-to-box, c'est moins ce que veut Guardiola. Lui, il veut quelqu'un qui soit son relais sur le terrain. Je ne dis pas que Yaya Touré n'a pas cette intelligence de jeu, mais il ne l'incarne pas totalement, d'où l'inadéquation. Ensuite, il faut pas dire laisser entendre que Guardiola a créé l'infamie en écartant Yaya Touré. Pour moi, c'était injuste, mais c'est un système économique. Si Yaya Touré est resté toutes ces saisons, c'est aussi parce qu'il s'y retrouvait, et dans le fait d'accroître son palmarès, et dans le fait d'avoir un salaire effectivement très intéressant. Donc c'est pas un système où Yaya Touré a été humilié, là je suis pas d'accord. Système gagnant-gagnant quand même.
Alors en tant que triple champion d'Angleterre, 34 ans, alors il a dit qu'il osait rêver un peu du Barça, mais ça, beaucoup de joueurs qui sont passés par Barcelone disent qu'ils aimeraient un jour y retourner, et c'est pas forcément possible. Où est-ce que vous le verriez rebondir comme joueur?
Moi clairement, et c'est ça qui m'étonne un peu, mais on en saura peut-être plus dans les semaines à venir, vu qu'il appartient à Manchester City.
Exactement.
Enfin, il est sous contrat à Manchester City, et que Manchester City a justement des clubs dans partout sur la planète, puisqu'ils ont New York, mais ils ont aussi Melbourne par exemple en Australie.
Et
Gérone en Espagne. Ce serait un formidable ambassadeur que Yaya Touré aille justement montrer ce qu'est le football de très haut niveau qu'il a incarné, soit à New York, soit en Australie. Et par exemple, j'imagine compte tenu de son expérience qu'il a déjà évolué.
Et international, parce que n'oublions pas était notamment capitaine des champions d'Afrique.
Regardez, moi je vois quelque chose. Alors c'est une vision tout à fait personnelle, mais Patrick Vieira est sur la shortlist pour remplacer Arsène Wenger à Arsenal. Quel plus beau relais pourrait avoir le New York City Football Club que Yaya Touré pour remplacer Patrick Vieira?
Comme
entraîneur, pourquoi pas? Ce serait une filiation assez naturelle. Moi, je crois à ça, mais bon.
Il veut jouer, et toi, tu dis non, ce n'est plus bon.
Il y a des joueurs qui sont entraîneurs-joueurs, ça existe aussi. C'est pas impossible. Même en MLS, c'est pas impossible.
Il faut laisser. Je crois qu'aujourd'hui, même le Paris Saint-Germain a besoin d'un joueur comme Yaya Touré. Et je dis bien que beaucoup seront encore surpris ici quand on verra le niveau de Yaya Touré dans un club de grande envergure cette saison qui va commencer.
On verra, alors,
donc
Rémi.
Moi je vous dis que tout ce qu'on est en train de dire là, tel n'entre pas dans le système de Guardiola. Moi j'ai aussi vu ça. Bon, on m'avait dit que les Milner et consorts n'étaient rien, mais sauf qu'ils ont quand même réussi à aller avec Liverpool jusqu'en finale de la Ligue des Champions.
Gilles, pour terminer.
Après, il est très très fort. Ça reste un des meilleurs milieux de terrain africains, bien sûr, mais au-delà, il a révolutionné le poste. Il avait
du monde.
Oui,
France football, c'est
oui, j'ai
bien
dit au-delà. Mmh. Ben, j'ai voilà. dit Afrique et au-delà, donc au-delà de l'Afrique, c'est le monde. Voilà, on est d'accord.
C'est le monde.
Fois.
C'est le monde.
Bon. En tout cas, on suivra avec attention les choix prochains de Yaya Touré.
Radio Foot International, Annie Gasnier.
Costa, sigue Rakitic, lanza otro autopase, pisa, y a balón para Dembélé. Gol de Ousmane Dembélé. Apareció en el segundo palo el futbolista francés. Contragolpe para Dembélé, le acompaña Messi, sigue Dembélé, la quiere el 10. Dembélé encarando a Dembélé. Otro de Ousmane Dembélé. Recibió ese balón rebotado, se dio la vuelta y solo tenía una cosa en la cabeza, enviarla para adentro, convertirla en gol.
El futbolista francés, il a peut-être voulu faire taire ses critiques, les critiques qui le visent, hein, alors consciemment ou pas. Ousmane Dembélé, donc le jeune attaquant du Barça, a inscrit un doublé. C'était dans la large victoire des Blaugrana sur Villarreal cette semaine en Liga, ce score de 5-1. Et eh bien, il confortait ainsi leur statut d'invaincu. Alors, une très belle prestation du joueur. Rappelons-le, c'est le plus cher recruté par le club catalan ces derniers temps, autour de 140 millions d'euros. Ousmane Dembélé, encensé par son entraîneur Ernesto Valverde.
Il a beaucoup de talent. C'est un joueur technique et qui est très bon des deux pieds. Il est aussi très rapide et c'est un très bon dribbleur. Je pense qu'il peut beaucoup nous aider au club. Il est très jeune, il a encore énormément de choses à apprendre et aussi beaucoup de temps devant lui pour progresser. Il doit continuer sur sa lancée. Et dans ce match, il a montré ses qualités et il était vraiment incroyable.
Alors Alejandro Valente, Ernesto Valverde nous dit qu'il était vraiment incroyable, qu'il joue bien des deux pieds et en même temps, il le fait pas jouer. Est-ce que c'est compréhensible ?
Je pense que dans l'esprit de Valverde, dans l'esprit des dirigeants de Barcelone, Ousmane Dembélé est arrivé à Barcelone en étant très jeune. Il faut qu'il mûrisse, qu'il se prépare pour à l'avenir incarner une véritable option pour être titulaire. Aujourd'hui, il ne l'est pas, il ne laissera sûrement pas la saison prochaine avec l'arrivée des Griezmann qui est quasiment acquis, quoi qu'on dise. Et donc l'idée de Barcelone est évidemment de le mettre en confiance, mais probablement de le prêter pour qu'il continue à progresser ailleurs et qu'il revienne dans un an ou dans deux ans lorsque Barcelone sera prêt à l'accueillir et lorsqu'il sera prêt à donner les meilleurs de lui-même à ce club où il a quand même en tant que remplaçant réussi quand même des belles choses mais qui aujourd'hui n'est pas en mesure d'être titulaire.
Gilles.
C'est devenu un super remplaçant effectivement, c'est ça le problème de Dembélé. Alors il a été longtemps blessé mais dans les propos de son entraîneur on voit effectivement il a du temps pour progresser. Bah oui, il ira s'aguerrir ailleurs et puis il reviendra peut-être, mais c'est quand même sur l'ensemble de la saison, alors certes malgré la blessure, une déception Dembélé à ce prix-là.
Une déception ou une erreur aussi du Barça?
Ça a été fait dans la précipitation,
Gilles.
On le sait, on
se souvient du contexte, hein. Neymar s'en va, faut en gros dépenser l'argent.
Mais c'est aussi une déception pour l'équipe de France. C'est une déception parce que voilà, est-ce qu'il va aller à la Coupe
mais
du Monde?
Mais il a été blessé à sa décharge.
Oui,
gravement blessé.
Bien sûr, non, mais il y a tout ça, mais. Son retour de blessure sur un match comme ça, c'est un épiphénomène. Est-ce que Dembélé est revenu au niveau où il promettait d'aller? Non.
Non, mais est-ce que non plus on n'exigeait pas trop alors qu'il est très jeune, il a 19 ans.
Moi je trouve qu'il est, bon bien sûr il est pas encore au top niveau, mais ça il a, comme vous dites Annie, il est très jeune. Maintenant, sur ce, mis à part ses blessures, dont il est d'ailleurs peut-être un peu responsable aussi. Hein. On sait qu'à Barcelone,
en arrêtant de s'entraîner à Dortmund pendant le projet de transfert.
Il y a eu grosses polémiques aussi en Espagne
sur son hygiène de vie.
Mm-hmm. Finalement, le club lui a imposé une cuisinière d'ailleurs pour qu'il mange correctement, qu'il ait un rythme de vie plus compatible avec les exigences du très haut niveau. Donc voilà, je pense que ça a été une saison d'apprentissage compliquée, liée sûrement à ses erreurs de jeunesse, mais que son potentiel reste intact. Voilà. Alors, est-ce que Barcelone doit s'en séparer pour faire venir Griezmann, puisqu'il en est question? Je pense que ce serait...
S'en séparer, les rumeurs, c'est plutôt de le prêter.
De le prêter, voilà. Est-ce que... Bon, c'est quand même délicat de prêter des joueurs à l'extérieur quand vous avez une forme de jeu même si elle a un peu évolué ces dernières saisons,
si particulière
à laquelle qu'il faut, il y a beaucoup de principes de jeu à intégrer. Je suis pas sûr que le prêter à l'Atlético soit la meilleure formule pour qu'il puisse ensuite s'intégrer parfaitement au jeu du Barça.
Rémi,
c'est un flop. Flop total, et ce n'est pas lui seul, hein, parce que Barça est habitué déjà à ces flops-là.
Il ah bah oui, je me disais aussi.
Oui, il y a les Vermaelen, il y a les Lucas Digne, il y a Paco Alcácer, il y a Arda Turan d'ailleurs, qui est coupé de 16 matchs de suspension, là, qu'on a envoyé balader gratuitement comme ça quelque part en Turquie.
Donc, pour vous dire il faut préciser qu'il n'a pas écopé de 16 matchs de suspension à Barcelone.
Mais c'est un joueur de Barcelone.
Il n'est que prêté.
Donc, pour vous dire que le Barça ne sait plus quoi faire avec ces joueurs qui ne servent à rien.
Enfin, c'est pas le pire, Ousmane Dembélé.
C'est quand même, quand les gens, comme le RF me disent aujourd'hui, que c'est le Barça est parti prendre un joueur en devenir pour qu'il vienne mûrir. Moi, je rigole. Une équipe comme le Barça, c'est les joueurs qui sont prêts parce que vous avez déjà ou bien la Masia, où vous pouvez attendre que les gens mûrissent, mais vous partez prendre un joueur qui était mis à prix à 80 millions, que vous achetez à 105 millions plus 45 millions de bonus, c'est-à-dire que le coût incroyable, aucun remplaçant au monde ne peut
avoir. Mais là, on en est sur son doublé et sur le fait qu'il y a un peu de rédemption.
Ça ne veut rien dire. N'oubliez pas que contre Malaga, il avait fait un bon match. N'oubliez pas que contre Chelsea, c'est lui qui fait la passe décisive et d'ailleurs que c'est le meilleur match d'Ousmane Dembélé en Ligue des Champions. Mais ce n'est pas ce qu'on attend. Moi, ce que je crois aujourd'hui, c'est que le Barça, du moment où ils sont partis prendre Dembélé, c'est pas de sa faute parce que d'ailleurs, Dembélé et tout, c'est pas de la faute de Dembélé, il est encore trop jeune, il n'avait pas les épaules pour jouer au Barça, c'est le Barça qui commet ces erreurs-là, parce que regardez par exemple aujourd'hui, le même Barça est en train de vouloir aller récupérer qui ? Thiago Alcantara, alors que Thiago Alcantara était au Barça, pourquoi ne l'avoir pas laissé là ? Donc à une certaine période, il y a un proverbe africain qui dit « le con vend ses poussins pour aller encore acheter d'autres poussins ».
Alors, première chose, pour tous les joueurs à plus de 100 millions d'euros prix du transfert, c'est compliqué. Ça pèse, on a beau dire.
On se souvient de Pogba notamment. Et
Martial.
Y en a
Martial, autour d'eux.
Vous vous souvenez que Pastore à l'époque, il coûtait 40 millions et que ça lui avait pesé aussi.
Mais oui, ça pèse parce qu'il y a les reproches. Ah, pour 140 millions, regarde ce que tu fais. Toujours. Donc ça, il faut s'exonérer de ça. La deuxième chose, je reviens à l'équipe de France. Peut-être que paradoxalement, le fait de venir de devenir un super remplaçant, ça peut le servir dans l'idée de Didier Deschamps. Contrairement, par exemple, c'est pas les mêmes postes exactement, mais contrairement à un Fekir qui a du mal, lui, à être dans un rôle de remplaçant, Dembélé, super remplaçant, eh ben, il l'est dans son club. Voilà. Peut-être que ça peut l'aider à intégrer la liste des Bleus.
Moi, je pense que Barcelone a eu plutôt l'intelligence de bien mesurer ce que Dembélé pouvait apporter ou ne pas apporter et s'adapter aux caractéristiques du joueur. Effectivement, on aurait tous aimé que par un coup de baguette magique, il devienne tout d'un coup un nouveau Neymar. C'était trop lui demander. Mais par contre, on voit que la manière dont Valverde l'utilise lui permet de continuer à progresser. Les statistiques montrent que quand il jouait à Rennes, il marquait un but toutes les 125 minutes. À Dortmund, toutes les 109 minutes. À Barcelone, il marque un but toutes les 92 minutes. Donc on voit qu'il y a quand même une évolution, une progression. Il est devenu aussi un joueur plus collectif. Il fait beaucoup des passes décisives. C'est qu'on apprécie beaucoup à Barcelone. Et je pense qu'il est assez
Combien de passes décisives pour une saison ? Parlez-nous des statistiques. Je peux vous dire...
Mais il y a une logique dans ce que fait Barcelone. Ils se disent, bon, il est trop jeune. Peut-être on lui a mis trop la pression. On va essayer de lui laisser le temps. On a des joueurs qui vieillissent, comme Messi, comme Suarez. On a fait venir Coutinho. On va faire venir Griezmann. Dans un an ou dans deux ans, peut-être que Dembélé pourra s'épanouir pleinement au sein de cette équipe. Et je pense que c'est plutôt une bonne chose qu'on ait eu cette lecture et cette appréciation de la part de Valverde. Et mélanger ça avec Alcantara, tout ça, ça n'a rien à voir. C'était une autre histoire. Donc il faut pas tout confondre.
Non.
Rémi, on va vous détendre. On va parler du Real Madrid. Le Real Madrid, ils ont perdu cette semaine à Séville, Rémi, sur le score de 3-2.
C'est
pas terrible pour une équipe de finalistes de la Ligue des Champions.
Vous avez vu une équipe de finalistes là ? Mais attendez,
Real est finaliste.
Attendez, je vous fais comprendre que FC Séville, au Camp Nou, c'est 2-0 contre le Barça à la 87e minute. Et je vous dis bien, c'est l'équipe titulaire. Maintenant, le Barça, le Real joue contre 2-0. Cette équipe-là. Oui, c'était à la, jusqu'à la 87e minute.
Il menait, vous voulez dire.
Voilà. Donc, il menait. Donc, voilà maintenant
mais là,
cette
je vous
équipe.
Parle de Séville.
Vous parlez donc, je vous parle donc de la même équipe. Vous avez le meilleur joueur du Real, Cristiano Ronaldo, qui n'est pas là. Vous n'avez pas Kroos. Vous n'avez pas Modric. Vous n'avez pas le
donc
gardien
ils ont
Navas.
Pas d'équipe B.
Vous n'avez pas Varane. Vous n'avez mais vous hein? vous envoyez oui bien évidemment. C'est la veut dire
c'est
que...
bizarre pour un grand club comme ça de pas avoir d'équipe B.
Bah la saison dernière
voilà au moins une équipe B qui réussit quand même. D'ailleurs, il serait revenu avec 3 buts partout. Le Real, c'est une
mais
équipe
ils ont perdu 3-2.
Ah, mais c'est mais
ils
à quoi ça sert
À quoi ça sert
bah, d'être deuxième de la Liga, Rémi.
Ah, mais
c'est
non
à leur portée.
Mais je vous fais comprendre que être d'ailleurs c'est Kluivert qui dit ça, que mieux vaut chercher une Ligue des Champions que d'être champion d'Espagne et faire des doublés et tout et tout et tout.
Enfin, l'année dernière, ils avaient fait les
donc,
deux.
Aujourd'hui, le Real a un objectif. Oui. C'est, le Real est déjà qualifié pour la Ligue des Champions. Point.
C'est qu'on vrai.
Soit deuxième, troisième. L'objectif, c'est la Ligue des Champions. Et là, le Barça regardera à la télé, comme Pep Guardiola, comme tout le reste, comment Real soulève la 13e Ligue des Champions.
Okay,
Alessandro Valente
d'accord.
et Xavier Barré ne seront pas à l'émission et vont dire qu'ils s'occupent des enfants à la maison.
Gilles, un petit mot sur cette équipe B un peu décevante.
Bah, ce qui m'ennuie, c'est que je suis un peu d'accord avec Rémi. Donc, ça m'ennuie mais profondément. Ça me fait pas peur. Mais c'est une défaite intelligente. C'est-à-dire que Zidane, il gère bien. Il sait que voilà, il y a la possibilité d'un triplé qui nous rappellerait les plus grandes épopées et ferait définitivement entrer son Real s'il ne l'est déjà dans la légende du football. Donc, il se dit une défaite un peu anecdotique en championnat, c'est pas très grave. Et c'est vrai que le Real n'a pas tellement d'équipe B finalement. On voit que Zidane, il fait un peu turnover, mais il fait un mélange.
Toujours.
Mais quand même, quand il y a des éléments clés qui sont pas là, le Real chute beaucoup. Et surtout, ce Real-là n'est pas un génie au niveau du jeu. C'est dans la tête, ce Real-là. C'est mental. Il refuse de perdre en Ligue des Champions. Alors qu'en championnat, ça leur importe moins puisque c'est déjà perdu.
Xavier.
Oui, il n'y a pas grand chose à dire, je crois, sur ce match, puisque, bon, en plus, il y a eu l'anecdotique pénalty raté par Sergio Ramos pour son retour à Séville. Bon, finalement, il en marque un quand même et ils perdent que 3-2. Mais je crois que oui, l'objectif, clairement, maintenant, c'est la finale Ligue des Champions. On tirera les leçons le 26 mai, puis on en reparlera avec Rémi Ngono.
Le 27 mai.
Non, tu ne seras pas là, je connais.
Non, mais c'est samedi, dimanche, il n'y a pas de radio foot, Rémi, alors on se reverra le lundi. En tout cas, au Real, eh bien, évidemment, il faudra recruter cette saison, puisque tout le monde le sait, Zidane avait choisi durant la saison de rester avec les mêmes et revient la folle rumeur, folle ou pas, vous allez nous le dire, eh bien autour de Neymar. Neymar, nouveau chapitre, hein, il est revenu du Brésil, on a vu qu'il boite plus, on a vu aussi qu'il remettait pas le maillot du PSG, il préfère garder ses efforts pour la Coupe du Monde. Un transfert est-il possible du côté de la Casablanca? Nouvel épisode. Et on a posé la question ce matin en conférence de presse à Zinedine Zidane. Ça l'a beaucoup fait rire de savoir si Cristiano Ronaldo et Neymar seraient compatibles.
Los buenos sont siempre compatibles. Los buenos.
Je pense que tous les bons joueurs peuvent jouer ensemble. Ils sont toujours compatibles entre eux, oui. À mon époque, on disait que je n'étais pas compatible avec Youri Djorkaeff. Et on a gagné une Coupe du Monde ensemble. Au final, il y a toujours une bonne alchimie entre les grands joueurs.
Alors, Neymar au Real, Alejandro, Neymar qui quitterait déjà le Paris Saint-Germain. On sait, Florentino Pérez a pas trop caché qu'il aimerait l'avoir dans ses rangs, mais est-ce que ça serait dès cet été?
On sait tous qu'un jour ou l'autre, ça va finir par se produire, parce que tout porte à cette solution-là. Est-ce que ce sera cette année? Ça me paraît quand même assez difficile à imaginer. Ça voudrait dire que Neymar se prêterait quand même à tous les psychodrames qui forcément entoureraient une telle issue en pleine Coupe du Monde, alors que son vrai objectif cet été, c'est d'essayer de gagner la Coupe du Monde. Ça me paraît difficile. On sait que le PSG a déjà entamé sa campagne d'abonnement et de séduction, sa campagne publicitaire de marketing pour la saison prochaine avec Neymar comme tête d'affiche. Donc ça voudrait dire que tout ça serait à changer dans la précipitation. Ça paraît quand même assez compliqué. Et puis au Real Madrid aussi, on se pose des questions. C'est vrai que Neymar est un joueur qui a beaucoup de talent, mais quel Neymar verrait-on arriver? C'est lui qui était discipliné, collectif, respectueux de ses coéquipiers à Barcelone, ou c'est lui un peu trop capricieux et en but de lui-même qu'on a vu ici à Paris? Voilà, tout ça reste quand même beaucoup d'interrogations, et je pense qu'on va avoir quelques mois avant de se le poser vraiment.
Rémi, on peut imaginer Neymar et CR7 sur le même terrain?
Bien sûr. Dans la mesure où, je peux vous dire que beaucoup disaient que CR7 avec Bell, ça n'irait pas parce que Bell était le joueur le plus cher par rapport à lui et qu'il a boudé. Mais on constate que Cristiano Ronaldo joue avec tout le monde. Il accepte même faire le turnover. Tout le monde disait que Zinedine Zidane ne pourrait pas le gérer. C'est quelqu'un qui est archi compatible, et d'ailleurs.
Et alors, le Real a-t-il besoin de Neymar?
Je peux même vous dire que quand on a vu Neymar souvent, hein, même pendant les cérémonies de France Football, c'est toujours à côté de Cristiano Ronaldo et le salue avec presque deux mains. Donc, c'est quelqu'un qui respecte beaucoup Cristiano Ronaldo et que Cristiano
Et vous
Ronaldo
le voyez jouer au Real?
Soit dit en passant, Neymar est un joueur qui a été volé par Barcelone au Real. À l'âge de 13 ans, vous le savez très bien que c'est l'enlèvement vrai. A été fait
histoire.
En pleine nuit dans un hôtel. Et c'est comme ça que ça s'est passé dans des méthodes mafieuses. Donc aujourd'hui,
quand il était encore au Brésil, à Santos.
Aujourd'hui, je crois que le Real, lorsque vous regardez par exemple les deux derniers mercato et même le dernier mercato, le Real est 14e équipe au niveau des recrutements. C'est-à-dire que pratiquement les caisses sont pleines. On n'a recruté personne. Et aujourd'hui, Neymar, ce qui a été évalué,
c'est 260
millions d'euros. C'est-à-dire, c'est
il l'achèterait cet été?
Et pourquoi pas? De toutes les façons, une chose est sûre, c'est que Neymar, son équipe, c'est le Real Madrid. Il y a un proverbe africain qui dit « Le chemin d'arrivée du poisson, c'est toujours de la marmite.
» Ça a l'air drôle. Gilles, est-ce que c'est logiquement le club de Neymar, le Real Madrid?
En tout cas, c'est pas le PSG. Il est venu au PSG uniquement pour l'argent. Et moi, je suis persuadé que si Neymar est champion du monde, il ne peut pas rester au PSG. C'est impossible. C'est trop petit, le PSG, pour un Neymar champion du monde. Ça ne collera pas. Il y aura une inadéquation. Et s'il est champion du monde, il sera en position de force absolue. N'oublions pas que pour aller au Real, il y a une condition que Zidane avait remplie au bout d'un petit moment, parce que Zidane n'est pas quelqu'un qui communique, c'est que le président Pérez demande aux joueurs de dire formellement « je veux venir ». Il avait tendu un bout de papier à Zidane en lui disant « tu veux venir ». Quand il avait eu la réponse positive de Zidane, il avait tout fait et ça s'était fait. Là, Neymar n'a pas encore dit « je veux venir », mais tout autour de lui, on dit « il pourrait être sensible aux arguments du Real ». Il manque juste un mot de Neymar et à mon avis, s'il est champion du monde, il dira « je veux aller au Real » et il ira.
Oui, c'est...
Xavier ?
C'est, on dit d'ailleurs que Neymar aurait déjà donné via son père son accord il y a quelques mois déjà au Real pour quitter Paris parce qu'il se sent pas très à l'aise au PSG. Maintenant, il faut pas oublier quand même que le PSG c'est le Qatar, c'est une vitrine diplomatique. C'est
qu'il a accepté d'être ambassadeur de la Coupe du Monde 2022.
Voilà, c'est
une des figures.
Un investissement étatique. El Jefe rappelait qu'ils ont déjà fait la campagne de publicité avec lui pour la saison prochaine. Donc je doute qu'il quitte dès cet été, même s'il est champion du monde. En revanche, la saison prochaine, dans un an, surtout s'il arrive à réaliser une grande saison avec le PSG, peut-être que en remerciement des services qu'il aura rendus, l'émir consentira à le laisser partir. Il ne faut pas oublier que pour les dirigeants du Qatar, c'est pas le joueur qui décide ce qu'il veut faire. Le joueur est un sujet. Et donc, il demande, entre guillemets, la bienveillance de son émir pour pouvoir bouger. Et je doute que,
Si Neymar dit publiquement, je veux partir, même l'émir du Qatar va avoir du mal à dire non, hein.
Les faits récents l'ont prouvé, l'émir du Qatar a toujours le dernier mot.
Alors, un petit mot, de votre part, c'est sur, l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid a lui aussi perdu son match. Là, c'était à domicile, face aux Catalans de l'Espagnol Barcelone, sur le score de 2-0. Est-ce que c'est un mauvais signe pour cette équipe qui va disputer le 16 mai prochain, c'est-à-dire dans moins d'une semaine maintenant, cette finale de Ligue Europa face à l'OM à Lyon?
Non, comme le disait Rémy Ngono pour le Real Madrid, en fait l'objectif de l'Atlético maintenant c'est cette finale d'Europa League. Donc pour ce match contre l'Espagnol, Griezmann est resté sur le banc.
Tout le monde ne pense qu'à la finale.
Voilà, Saúl Ñíguez et Koke ont joué chacun une mi-temps. Enfin bon, il a beaucoup fait tourner et c'est vrai qu'ils n'ont pas vraiment joué ce match à fond avec la détermination qu'on leur connaît.
Un petit mot.
Moi je pense
sur l'Atlético
effectivement ne vise que cette finale. Ce serait une équipe qui sera prête. C'est un peu une fin de cycle, l'Atlético. Donc, c'est ça que je crains, moi, pour Marseille. C'est que l'Atlético, en fait, est obsédé par légitimer cette superbe série, mais après des défaites en Ligue des Champions.
Deux défaites en Ligue des Champions.
Par une victoire européenne, qui couronnerait toute cette ère Simeone avec cet effectif-là. Et voilà, cette obsession-là, elle va se traduire dans la force mentale de l'équipe.
Ben, on verra ça du côté de Lyon, n'est-ce pas, Alejandro Valente?
Oui, mais les obsessions ne sont pas toujours les meilleurs alliés des équipes qui veulent atteindre...
C'est bien dit, chef.
On sait que cet Atlético a aussi ses points faibles, on sait que Simeone Simeone ne sera pas sur le banc face à l'OM. On sait que Griezmann a peut-être été un peu déstabilisé quand même par toutes les informations qui ne cessent de paraître sur son prochain départ à Barcelone. Donc tout ça peut éventuellement compliquer la tâche de l'Atlético. Et on sait que c'est une équipe qui, si elle prend un but en premier, elle a souvent du mal à s'en sortir.
Alors le suspense est énorme et demeure jusqu'au 16 mai au soir. Il reste très peu de journées de championnat dans les principaux donc championnats d'Europe, mais il reste aussi des places pour disputer la saison de Ligue des Champions, d'où cette petite musique que vous connaissez tous. Effectivement, pour l'an prochain, il y a, alors on en avait parlé à Alejandro, c'est la première fois que nouvelle organisation, ce nouveau système sera appliqué, 4 places attribuées systématiquement dans les 4 championnats que sont Espagne, Angleterre, Allemagne et Italie. En Liga, c'est fait. On a déjà les 4 équipes, Barça, Atlético, Real, Valence. Alors, en Allemagne, il y a encore du suspense. Tout va se décider ce week-end. Les 3 premiers sont Bayern, Schalke et Dortmund. Par contre, Xavier Barré, il y a encore, c'est la 34e journée et la dernière puisqu'il n'y a que 18 équipes là.
Ouais.
3 équipes se disputent encore une place. Hoffenheim, Leverkusen et Leipzig.
Oui, donc c'était d'ailleurs 2 de ces 3 équipes étaient en Ligue des Champions cette saison, et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que finalement en Allemagne, on a aussi un championnat où ça tourne, mis à part le Bayern, qui est chaque année, Dortmund presque chaque année, et derrière les 2 autres places, il y a vraiment une vraie concurrence, c'est pas sclérosé comme dans d'autres championnats. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir qu'après 33 journées, eh bien, il y a encore cet enjeu-là. Moi, je trouve que ce que fait Leipzig et ils l'ont montré cette saison en Ligue des Champions, puis en Europa League, est intéressant parce qu'il y a un vrai projet, on fait beaucoup confiance aux jeunes, mais le Bayer Leverkusen aussi, Hoffenheim aussi, donc ce sont des clubs qui ont des profils assez équivalents, ce sont des clubs qui ont des, il faut le signaler, des histoires assez récentes, on parle beaucoup de Red Bull pour Leipzig, mais Leverkusen c'est la firme pharmaceutique Bayer, et Hoffenheim c'est la firme informatique SAP. Donc c'est des grosses entreprises qui sont venues mettre de l'argent dans le football, qui pratiquent une politique où on fait massivement confiance aux jeunes non seulement allemands, mais aussi d'autres horizons, d'autres pays. Et donc, c'est des clubs qui ont des profils assez proches. Donc moi, personnellement, j'avoue que j'ai pas de favori particulier, mais je trouve que c'est intéressant de voir que ces entreprises-là, faisant confiance aux jeunes, ont réussi.
Et mise sur l'Europe.
L'Allemagne s'est quand même bien débrouillée pour ces 4 places. Parce que autant puissance économique, bien sûr, puissance populaire, effectivement, puissance sportive, on peut quand même
hormis le Bayern, qui est toujours dans les derniers qualifiés.
Effectivement, les autres clubs sont moins brillants qu'avant.
Ils disparaissent.
Mais grâce à son lobbying frénétique et à sa présence dans les instances, contrairement à la France, l'Allemagne a assuré sa toute puissance au niveau des plus grands championnats européens.
Très fort, 4 clubs sur 18, effectivement.
Enfin, Gilles, l'Italie était après. C'est surtout l'Italie qui a réussi son coup sur les 4 places.
D'accord.
Parce que l'Allemagne les avait déjà, avec l'Angleterre et avec l'Espagne.
Je ne dis pas que l'Italie est moins puissante au niveau du lobbying. Ce que je voulais commenter, c'est que la France s'est fait monstrueusement, vous me passerez l'expression, avoir dans cette logique-là.
On est d'accord.
Notre non-représentativité au niveau des instances fait qu'on est laminé. Voilà.
Et oui.
Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec le mot lobbying. Ce n'est pas une affaire de lobbying. Parce que lorsqu'on essaie de regarder l'Allemagne, Je vais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez une équipe française qui a joué une Ligue des Champions, la finale, depuis très longtemps? Non. Mais moi, je peux vous dire, par exemple, que Borussia Dortmund vient d'éliminer, il n'y a pas très très longtemps, le Real Madrid a atteint une finale de Ligue des Champions. Je peux vous dire que, par exemple, le Bayern a enchaîné des Ligues des Champions. Donc, arrêtez de parler de lobby.
Oui, non, mais on parle de quatre places.
Oui, mais c'est en fonction de ça. C'est en fonction de l'avancement dans les compétitions européennes qu'on gagne les points dans l'indice UEFA. On ne reste pas comme ça en disant que allons négocier, c'est la corruption, mettez quelque chose.
Non, une lobbying n'est pas corruption. Lobbying n'est pas corruption.
Regardez, ça ne veut rien dire. Lobbying, c'est la même chose. Vous voulez me dire quoi? J'ai dit, il y a une logique.
Je pense que vous avez une idée des affaires.
Et il y a une logique qui est respectée, c'est-à-dire que vous gagnez tel nombre de points, eh bien, vos clubs avancent, vous gagnez en indice UEFA. Et par contre, je ne suis pas d'accord avec Xavier Barré quand il félicite Leipzig, parce que voilà une équipe qui était deuxième l'année dernière. Qu'est-ce que ça veut dire progresser? Progresser veut dire que si vous
êtes. Ça veut dire aussi vendre ses joueurs, vous le savez très bien, Rémi.
C'est-à-dire que vous pouvez au moins se garder le deuxième. Aujourd'hui, quand je vois une équipe de cette envergure-là qui n'ira pas en Ligue des Champions, parce qu'actuellement, sur les statistiques, Leipzig, c'est 51 buts marqués, 51 buts encaissés. C'est-à-dire que. Zéro comme goal average.
Donc vous êtes d'accord avec nous, après le Bayern et Dortmund, ça tombe très vite.
Ah, voilà, donc, Leipzig, ils étaient où il y a deux ans, Leipzig? Leipzig était en deuxième division il y a deux ans.
Ah, tu peux aussi dire ça de Monaco?
Et il y a quatre ans, il y a sept ans, le club n'existait pas.
Monaco
donc,
était
Leipzig,
où?
C'est une réussite, une vraie réussite, même si cette saison, ils ont eu un peu de mal à faire front sur tous les fronts, justement, Bundesliga et Coupe d'Europe.
Et Ligue Europa, ouais. Alejandro.
En tout cas, ce qu'on voit avec ce système, c'est que Leipzig, qui a été éliminé par Marseille tout récemment, en cas de victoire ce week-end, aurait toutes les chances d'accéder en Ligue des Champions avec une quatrième place, alors que Marseille, en étant quatrième, aurait toutes les chances de n'avoir que les yeux pour pleurer. Et je trouve qu'il n'y a pas un écart entre le football allemand et le football français qui justifie cela. Ça a été totalement arbitraire. Et moi,
je ne suis pas d'accord. Je vais continuer à dire que c'est pas possible. Aucune équipe en dehors de Marseille qui vient d'atteindre une finale d'Europe League.
Je vous demande de vous arrêter.
Alors, on va passer, Rémi, ça vous énervera peut-être moins, à l'Italie. L'Angleterre, c'est pratiquement fait, mais on en a beaucoup parlé hier. Liverpool et Chelsea se disputent encore une place. Et en France, on en a aussi beaucoup parlé. Il y a deux places pour trois équipes, OM, OL et Monaco. En Italie, le suspense se joue entre la Roma, la Lazio et l'Inter pour obtenir aussi cette quatrième place. La Roma est plutôt bien partie, Gilles.
Je trouve que la Roma mériterait, au vu de sa saison, au vu du jeu pratiqué, au vu du football. Maintenant, mériter, c'est un bien grand mot et ça ne se traduit
pas. Il n'y a pas de mérite, exactement.
Mais, oui. Mais après, le football italien est en reconstruction et reparti. On a des écoles de jeu qui se mettent en place, qui sont intéressantes.
Des équipes qui arrivent loin en Ligue des Champions.
Absolument.
Et ça, c'est quand même une référence.
Absolument. On a l'école napolitaine aussi, qui a été éliminée en Ligue des Champions, mais ils jouaient vraiment le championnat. Donc, il y a des choses qui se mettent en place. C'est un football qui est en renaissance, qui est très intéressant à voir jouer, qui redevient spectaculaire avec des buts marqués. Voilà, il y a l'hégémonie de la Juve. Mais il y a d'autres choses. Et pour couronner cette renaissance, j'aimerais que la Roma, personnellement, aille en Ligue des Champions.
Alors le problème pour la Roma, c'est qu'ils reçoivent la Juve ce week-end en championnat. Et la Juve qui, sur cette pelouse du Stade Olympique, a gagné la Coupe d'Italie Milan. Là,
je l'ai commenté
le match mercredi soir. Et ils ont cartonné le Milan 4-0, bien aidé par le malheureux Donnarumma, le jeune gardien qui a au moins fait deux boulettes sur ses quatre buts. Mais la Juve
au moins,
doit...
c'est pour elle partir cette fois-ci.
Ça, c'est pas sûr. Mais bon, la Juve a besoin encore d'un point pour assurer le titre, même s'ils ont 6 points d'avance sur Naples et qu'ils devraient l'avoir quand même. Ils ont besoin d'un point pour l'assurer et ils ont pense pas tellement envie de faire des cadeaux à la Roma. Du coup, c'est vrai que cette course pour les qualifications
entre les trois,
avec la Lazio et l'Inter, s'annonce très très intéressant.
La Juve se déplace à la Roma.
Oui, absolument.
Mm-hmm. Voilà. Et quand on voit ce que la Roma fait actuellement avec les Romatada.
Non, mais c'est Rémi promet une Romantada à la Juve qui n'a pas fait de démontada, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, voilà pour ce qui est des championnats, donc les matchs à suivre pour savoir qui sera européen en Ligue des Champions l'année prochaine.
Carton jaune,
un carton, là. Un carton jaune.
Oulala,
carton rouge
dans la confusion.
Carton vert.
Extraordinaire.
Rien à dire.
Rémi, votre carton.
Alors, mon carton est décerné par Souleymane Dabo de ma page Facebook Le Mingon officiel et de mon journal Cofranc à carton rouge donc à Sergi Roberto qui a donné une belle gifle à Marcel.
Un Barcelonais?
Ah oui, oui, oui.
Un gifle où exactement?
Voilà, donc pratiquement d'ailleurs il est cop de 4 matchs de suspension tout simplement. Le règlement, c'est-à-dire de la compétition dit quand même que en cas d'agression, même s'il n'y a pas lésion, c'est 12 matchs. Donc encore une fois de plus, Barcelone s'en sort très très bien. Donc tout au moins et ils sont en train de se plaindre que non, il n'a rien fait parce que justement c'est Marcelo qui l'a provoqué. Marcelo a tout simplement posé une question. Est-ce que tu connais la capitale de l'Italie?
Ah, il a voulu être gentil, Marcelo.
Le gars a défoncé.
C'est une allusion à la Romantada, c'est ça?
Et voilà.
Bon, Alejandro et Gilles, un carton au Barcelonais. Gilles, avez-vous un carton?
Ah, je suis très bonne humeur. Carton vert à l'UEFA. Pourquoi? Parce que l'UEFA veut... entre guillemets, durcir les
Seferin
veut durcir les règles du fair play financier en se focalisant sur les commissions des agents. Et pour moi, le délire des commissions des agents, c'est à long terme la mort du football. Il faut arrêter avec ça. On sait en plus qu'il y a plein de dessous de table que transitent par les commissions d'argent des sommes entre les clubs d'une hypocrisie folle. Donc je trouve très bien de légiférer, de réglementer, halte aux commissions d'agents délirantes. Il faut faire attention et sur durcissement du fair play financier va pour moi dans le très bon sens.
Et ils font le lobbying.
Ils n'avaient pas été aidés par la FIFA justement qui elle avait lâché un peu les choses.
Absolument, ils tentent de reprendre le contrôle et je les soutiens vraiment.
Il n'y a que le lobbying en football.
Xavier.
Moi, j'ai donné un carton vert à l'Islande, oui, parce que cette petite île du nord de l'Atlantique qui va participer à la Coupe du Monde pour la première fois de son histoire, eh bien, a déjà donné sa liste pour la Coupe du Monde. Et donc, Eimir Hallgrímsson, le sélectionneur, a emmené tous les joueurs auxquels on pouvait s'attendre, sauf Kolbeinn Sigþórsson, l'attaquant de Nantes, mais ça, fallait pas rêver puisqu'il a plus joué en sélection depuis.
C'est-à-dire qu'il a moins le choix que Deschamps ou
Sampaoli. Mais il n'y a pas de Ligue des Champions. De finale de Ligue Europa pour ces joueurs.
Oui, par contre, il a pris Gylfi Sigurdsson, et ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment le joueur le plus talentueux de ce groupe-là. Et même s'il a été blessé au genou droit au mois de mars avec Everton, il est dans le groupe et il compte sur lui, évidemment, pour cette Coupe du Monde où ils n'ont pas hésité à afficher l'ambition. Ils veulent aller au deuxième tour, même s'ils sont dans un groupe où il y a quand même l'Argentine, le Nigeria et la Croatie, ça risque d'être très difficile.
Est-ce qu'ils ont sélectionné le clapping?
Le clapping, il y sera forcément.
Alejandro.
Comme on a parlé de Yaya Touré, ça m'a inspiré. Alors, un carton vert à Youssouf Hadji, un autre ancien grand joueur africain qui tire sa révérence justement ce vendredi en disputant avec son club Nancy un match très important puisque c'est le maintien tout simplement de Nancy qui est en jeu. À 38 ans, donc c'est grand international marocain, va quitter le football en laissant beaucoup de beaux souvenirs, notamment Nancy, où il restera comme le deuxième meilleur buteur de l'histoire derrière un certain Michel Platini.
Radio Foot donne un carton vert à un passionné, à quelqu'un aussi qui a beaucoup d'ingéniosité. C'est un supporter d'un club turc. Le club est de deuxième division, du Denis Lispor. Et en fait, il a été exclu à vie du stade de son équipe de cœur. Et comme il est exclu, eh bien, il avait loué une crue ces derniers temps. Et il domine la pelouse et regarde les matchs désert. Alors, il a tout son équipement, son drapeau. Et là, ce jour-là, en plus, ils avaient gagné 5-0. Donc, où peut mener la passion très haut parfois. C'est la fin de ce Radio Foot International et de ce Café des Sports. Avant de vous quitter tous et de vous dire au revoir, n'oubliez pas, lundi dans Radio Foot International, nous aurons l'heureux lauréat du prix Marc Vivien Fauet, c'est-à-dire que dans notre studio, nous aurons le meilleur joueur africain de la saison 2017.
Et c'est moi
2018.
Qui le mettrai le prix.
Ah, c'est vous? Non, mais j'espère que vous viendrez par contre, Rémi. C'est peut-être Alejandro qui le remettra.
En tout cas, c'est pas vous qui aurez le prix.
Non, mais il est trop vieux, ça y est, Rémi.
Pas assez de lobbying.
C'est la fin de ce Radio Foot. Merci à Pierre Guérin, merci aussi à David Finzel qui m'a aidé à préparer cette émission et à Guillaume Ploquin qui était à la réalisation. Et on vous dit donc à lundi.